Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère dans l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux acteurs et aux actrices des transitions environnementales et solidaires à Marseille et sa région. Nous sommes en direct de 19h à 20h sur le 88.4 ce soir avec Guilhem, je raconte n'importe quoi, ça commence mal. Vous pourrez retrouver cette émission demain en rediffusion entre 9h et 10h ainsi que en podcast sur radiogalère.fr lorsque vous cherchez sur internet. Guilhem, avant de rentrer un peu dans la discussion, je vais présenter Mycotopia qui t'amène ce soir. C'est l'association qui développe les super pouvoirs du champignon et du mycélium pour apporter localement sa contribution au monde demain. Vous avez la volonté de faire du champignon une réponse aux défis environnementaux actuels. À chaque problème, sa solution. L'agriculture intensive, la nourriture industrielle, la pollution plastique, etc. Vous êtes implanté à Marseille et Mycotopia s'inspire de la nature pour construire un projet territorial avec un triple objectif. Le premier, c'est valoriser la biomasse locale. Le deuxième, c'est de produire des champignons bio. Et le troisième, c'est de développer les biomatériaux. Guilhem, bienvenue, bonsoir.
Bonsoir.
Excuse-moi d'avoir écorché ton prénom, ça commence.
Ça arrive souvent.
Je te laisse pour débuter un peu cette émission. Je présente aux auditeurs et aux auditrices un peu le fil qu'on va suivre. D'abord, ce qu'on aime bien faire, c'est de pouvoir présenter un parcours, donc le tien. Donc tu auras l'occasion de pouvoir un peu dire ce que tu as fait, ce qui t'amène à faire l'activité que tu fais maintenant. Puis de présenter ce qu'est Mycotopia, les trois points que je viens d'évoquer. Et puis, après l'intermède musical, on pourra explorer les différents imaginaires que vous essayez de promouvoir avec votre association. Mais sans plus attendre, je te laisse la parole pour te présenter.
Eh bien, donc je m'appelle Guilhem Delcher, j'ai 30 ans. Je suis le cofondateur de Mycotopia. Mon parcours, il est relativement simple, hein, finalement. Je me suis très vite tourné dans mes études sur les questions environnementales. J'ai un master en gestion de l'eau et les milieux aquatiques, donc rien à voir avec les champignons, mais j'ai toujours eu cette volonté d'étudier l'environnement, l'écologie au sens large et les interactions homme et nature. Et suite à ces études, j'ai un peu bossé dans le milieu de l'environnement, en bureau d'études essentiellement, sur de la recherche et développement dans les milieux aquatiques, plutôt l'eau souterraine même. Très vite, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas le milieu dans lequel j'allais m'épanouir le mieux. Et avec un ami, on s'était toujours dit il faudrait qu'on se trouve un projet, il faudrait qu'on se trouve une idée, quelque chose qui nous permettrait d'avoir un impact social et environnemental sur la société, et puis qu'on pourrait construire à notre sauce, quoi. Et puis bon.
Alors quelle était cette recherche d'impact que vous avez essayé de promouvoir?
Au début, elle n'était pas très très identifiée. C'était juste une volonté commune. Et puis j'ai eu la chance de passer un peu de temps et de vivre en Inde.
C'était à quel moment tout ça?
Tout ça, c'est les premières questions. C'était en 2016.
2016.
2016. Je finis mon master en 2015 et 2016 que je commence à me dire que j'aimerais bien avoir un projet à moi avec un peu plus d'impact. Il n'y a pas d'idée à ce moment-là. Et après, j'ai la chance de passer un moment en Inde, d'y vivre, d'y bosser un peu. Et j'ai un peu de temps à des moments et je tombe sur un article sur une société américaine qui travaille sur des matériaux à base de mycélium, donc à base de champignons. On pourra revenir sur le terme de mycélium, est-ce que c'est
carrément.
Et puis je fais ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je fais un travail de recherche. Je bosse sur les articles, j'ai un peu de temps, je me plonge dedans. Puis je revois mon collègue en vacances et je lui dis « j'ai peut-être un truc ». Et lui, il fait pareil et puis il me dit « en vrai, ça me tente, il faudrait qu'on se lance là-dedans ».
Et ça, c'était toujours en 2016?
Ça, non, c'est, cette idée, elle est, je pense, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on se voit, je pense qu'on se voit en 2018.
C'est beau de voir la maturation du projet. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien pouvoir présenter à la radio, c'est ces parcours qui se construisent, et là, de voir que ça commence en 2016, et surtout à un moment où, collectivement, la société n'avait pas encore basculé sur les questions écologiques, où depuis 2018, il y a quelque chose de plus fort qui s'inscrit.
Ouais, c'est vrai. Après, moi, enfin, en tout cas, nous, avec Clément, qui est cet ami avec qui j'ai pensé le projet au début, on était déjà tourné là-dedans, mais de par nos études. En fait, moi, je n'aurais peut-être pas la même analyse que toi sur le début des prises de conscience écologiques.
Ah non, mais c'est sûr qu'il y en a eu, même dans les années 70, il y a même fort longtemps.
Oui, oui, bien sûr. Mais,
il y a eu la COP en 2015.
C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas si ça a eu un impact sur moi, mais du coup, là, c'est pas du tout Micotopia à ce moment-là. Hein. C'est simplement une idée qu'on peut y aller ensemble et qu'on va tenter quelque chose. Du coup, si, la suite, on se lance, on structure un truc, on se fait aider à l'incubateur Intermade, qui est juste à côté des locaux de Radio Galère. Et puis très vite, le projet se structure plutôt autour de cette idée de développer des matériaux qui pourraient remplacer le plastique. Ça, c'est vraiment le début, c'est l'idée. Et puis là, y a une rencontre en plus, fin 2019, avec Raphaël, qui lui fait un peu la même chose, avec une autre approche. Lui, il est designer d'innovation durable. Et il a mis les mains dedans très vite et il a construit un projet vraiment autour de développer des objets à base de mycélium. Et on le rencontre lors d'un événement à la région. Puis on se dit, c'est bête, t'es à Toulon, nous on est ici à Marseille, ça se structure, est-ce que tu veux pas venir nous rejoindre? Et du coup, à ce moment-là, on est trois. Et, le projet prend un peu plus d'ampleur, il faut réfléchir à comment on va le structurer économiquement. En parallèle, nous, on s'est vraiment formés aux champignons. On se rend compte que, OK, c'est cool cette idée de matériaux, mais en fait, le champignon, c'est un milieu immense. Il y a plein de choses à faire. Quand même, je pense, assez tourné sur la nourriture et sur l'idée de production agricole. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, à tous les trois. On se dit qu'il faut aussi construire le modèle autour de la production agricole et qu'il y a un intérêt à lier les deux et qu'on peut aussi construire un projet plus large.
À ce moment-là, vous avez vos deux objectifs, donc remplacer le plastique et faire de la production alimentaire.
C'est ça. Et les deux sont basés sur ce qu'on a vite compris. Que le champignon nous permettait, c'est de valoriser de la biomasse locale. Ça veut dire...
Alors, peut-être que là, je vais t'arrêter 30 secondes. On va poser deux termes pour que nos auditeurs et auditrices puissent comprendre. C'est quoi la biomasse et c'est quoi le mycélium? C'est quand même des mots essentiels puisque tu les as employés.
La biomasse, en fait, c'est tout simplement, de la matière organique. Avec le champignon, on va pouvoir utiliser des déchets, on peut dire ça, de l'agriculture. Ça peut être de la paille, par exemple. Faut savoir que en Camargue, donc quand même relativement proche de Marseille, il y a de la paille de riz qui est produite et qui est difficilement valorisable. Donc ça a été un de nos axes de travail. Il y a des déchets de production viticole, notamment des pépiniéristes dans le Vaucluse qui n'ont pas trop de sources de valorisation, de coupe en fait, de leurs pieds de vigne. C'est ça la biomasse, mais ça peut être des dresches de bière, donc ça c'est les résidus d'une production de bière. Ça ne va pas être la matière organique comme on l'imagine au quotidien, nos pots de pommes de terre qu'on va mettre dans le compost. C'est pas cette biomasse-là. C'est de la biomasse qui est un peu technique, mais riche en cellulose. C'est ce que compose le bois et en lignine. En fait, le champignon, ce qu'on peut faire pousser des grades du bois, en fait, pour faire simple. Et donc, c'est ce type de matière qu'on va aller chercher. De la sciure, par exemple. C'est aussi une ressource qu'on peut valoriser avec du champignon. Et le mycélium, c'est quoi ? Bah, le mycélium, en fait, c'est la partie immergée de l'iceberg, en fait. Mm-hmm. C'est la partie souterraine du champignon. Le champignon que l'on mange, que l'on voit, c'est que l'organe reproducteur de cet organisme. Donc, en fait, le mycélium, c'est un réseau souterrain qui va, dans le cadre des champignons que nous, on cultive, dégrader cette matière organique et coloniser le sol.
Ça veut dire que quand tu... Alors, est-ce qu'on cueille ? Quand tu vas chercher ton champignon, en fait,
oui,
tu
ouais,
gardes ton...
Tu cueilles, tu récoltes, ouais.
Tu récoltes ouais. ton champignon, tu vas garder ton réseau de mycélium dans le sol.
Exactement.
Et qui ensuite va de nouveau se... Enfin, quand tu dis que ça se reproduit, ça suscite ma curiosité, ça veut dire quoi, cette partie reproductive qui sort ?
Eh bien, le champignon, la partie donc, visible, elle libère des spores. Des spores, en fait, c'est... Oh. Les biologistes ne seraient pas d'accord, mais c'est pour vulgariser, c'est un peu les graines des champignons. Mm-hmm. Ces spores, c'est des petites particules qui peuvent être visibles à l'œil nu quand elles sont en grande quantité. Ça fait un peu de la poussière. Elles vont germer et former les premiers démarrages de mycélium, les premières ramifications de ce réseau souterrain. Voilà, je ne sais pas si ça suffit à t'expliquer. Donc en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça la partie, l'organe reproducteur. C'est que le mycélium va pousser lorsqu'il y a un changement de conditions. C'est aussi pour ça qu'on va aux champignons généralement à l'automne, parce qu'il y a un choc d'humidité et de température qui pousse le mycélium à se reproduire. Donc à former ces fruits, ces champignons, qui vont larguer des spores, qui eux-mêmes vont germer et refaire du mycélium d'un nouvel individu.
On parlera sans doute tout à l'heure de mycélium dans la deuxième partie d'émission, lorsqu'on parlera des imaginaires, parce que c'est souvent un terme qui est employé pour sa partie ramification en réseau décentralisé. Mais pour continuer l'émission, là, tu nous as présenté un peu tout le trajet que vous avez mené, tout seul, puis à deux, puis à trois, de 2016 jusqu'à 2018, et ensuite au moment où vous lancez, est-ce que il reste d'autres parties dans la construction du projet, ou est-ce que là c'est le moment où ça a commencé à devenir mûr ?
Oh bah il y en a plein des parties, c'est jamais bien mûr en fait un projet comme celui-là. Non, bah il y a eu des difficultés déjà à obtenir un local, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que pour pouvoir faire ça, on a commencé à faire des premières expérimentations. On a été à Coco-Velten en 2020, dans les archives, où il y a peut-être des auditeurs qui ont fait des soirées dernièrement, auditeurs et auditrices. Et dans cette phase expérimentale, là, on a testé un peu la production de champignons, les débuts de nos tests de matériaux. Puis après, il a fallu viabiliser les locaux et trouver des locaux qui nous permettent de produire suffisamment pour avoir un modèle qui fonctionne et installer des équipements qui nous permettent d'avoir des milieux un peu plus contrôlés. Parce que la contrainte du champignon, c'est quand même d'éviter qu'il y ait des contaminations et d'autres champignons qu'on ne souhaite pas qui se développeraient. Donc il faut des équipements un peu précis. Et donc dans cette construction, ça m'amène aussi au développement d'une autre activité qui est importante au sein de Mycotopia. C'est qu'on s'est rendu compte qu'en parlant de notre projet, il y a peu de monde qui comprenait vraiment l'ensemble de notre action. Et donc qu'il fallait en parler, et qu'il fallait transmettre, et qu'il fallait expliquer tout ça, comme ce que je viens de faire par exemple sur le mycélium et sur l'appareil reproductif du champignon. Et donc ça nous a amené à développer des actions et une autre activité de l'association, qui est la transmission, la pédagogie. On a commencé par les collèges. Et maintenant ça se construit. On a vraiment un pôle de sensibilisation à l'environnement à travers le monde fongique. Voilà, et c'est comme ça qu'on le nomme.
Ok. Alors là, si jamais on fait un petit point d'étape au moment où on présente la photo de Mycotopia aujourd'hui, il y a une partie qui consiste dans de la production de champignons à volonté alimentaire. Est-ce que vous êtes toujours sur la partie où vous voulez remplacer le plastique avec une partie de cette production qui va vers du plastique, avec de la recherche peut-être ?
Alors on est toujours, elle a été longtemps en stand-by, de par ses problématiques d'installation, d'équipement. Et puis c'est le développement d'un projet. Lancer la production, ça a été quand même, ça nécessite quand même beaucoup de temps et de travail. Et comme c'était un peu le nerf économique, on va dire, au démarrage, parce que c'était plus simple de pouvoir produire et vendre des champignons que de travailler sur de la recherche. Mais c'est toujours le projet une partie du projet de Mycotopia. Et donc maintenant, on a les équipements, on a tout ça pour lancer cette partie d'innovation autour des matériaux et revenir sur tous les tests qu'on avait pu faire, notamment à Cocovelten.
Ok. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on puisse un peu plus rentrer dans le détail de chacune de ces branches que forme votre propre mycélium interne. Avec la première, c'est pour ce qui concerne donc la production agricole, enfin en tout cas alimentaire. Comment est-ce que ça se passe ? À qui est-ce que vous adressez ? Enfin, je vais poser des questions simples. Comment est-ce que vous produisez déjà ?
Alors, là, en toute transparence, on ne produit pas comme on a envie de produire.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, comme 95% des champignonnières en France, malheureusement, pour moi, c'est pas forcément la solution, on achète des substrats, donc un mélange de paille, de sciure, où le champignon est déjà en place. Mmh. Un peu comme si on achetait un plant de tomate, où on aurait juste à planter notre plant et nos tomates poussent. Bon, bah, nous, on met notre plant de champignons en culture et nos champignons poussent. Pour valoriser de la biomasse locale, il y a mieux comme technique. Parce qu'en fait, on achète quelque chose qui n'est pas produit chez nous. Et donc ça, ça a été une obligation technique par rapport à nos locaux et nos problématiques d'installation, où il a fallu qu'on se lance. Et maintenant, on travaille justement depuis peu à la production de nos propres substrats. Et ce changement, ça va nous permettre déjà de travailler comme on a envie de travailler et de valoriser cette biomasse qu'on souhaite valoriser. Et en parallèle, en fait, ça va nous permettre d'aller sur des nouvelles espèces de champignons qui sont beaucoup moins répandues dans le commerce, où on va pouvoir maîtriser la souche. Dans l'idéal, on aimerait travailler sur des souches qui sont même récoltées localement. Alors là, ça peut m'amener à expliquer un peu plus précisément comment on fait pousser un champignon, mais en fait on peut cloner un champignon et c'est ça qui est assez fou, c'est-à-dire qu'à partir d'un champignon qu'on récolte en forêt, on peut obtenir notre propre mycélium et donc si on maîtrise les itinéraires techniques pour pouvoir cultiver ce champignon, donc en fait combien de sciure on va mettre, combien de paille on va mettre, c'est des ratios en fait en fonction de chaque espèce, donc ça on a des tests à faire et donc ça et ce laboratoire et ces installations vont nous permettre de travailler sur ça et donc de pouvoir proposer des champignons qui sont autres que ce qu'on fait actuellement, le shiitake et le pleurote. Donc prochainement on espère pouvoir avoir du hindérisson. Alors, je laisserai les auditeurs et auditrices regarder ce que c'est sur Internet. Parce que là, c'est assez joli.
Vous en produisez une seule sorte ?
On produit du pleurote et du shiitake. Okay, donc deux sortes. Avec des petites variantes en été. Pleurote doré, qui est un champignon un peu plus tropical, qui résiste aux chaleurs estivales de Marseille.
Et quand tu dis que vous achetez du mycélium qui vient d'ailleurs, qui le produit et est-ce qu'il est produit localement ?
Ben, il est produit, nous, c'est le fournisseur le plus proche qu'on ait pu trouver pour rester un peu dans notre démarche, donc c'est en Auvergne.
D'accord.
Après, lui, c'est une production en bio, mais c'est un producteur qui fait des quantités assez importantes et du coup qui travaille avec une souche de pleurote, une souche de shiitake. Et donc, il y a peu de variété, en fait, de génétique dans ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu un problème que 95% des champignonnières en France fonctionnent comme ça, parce qu'on a un intérêt à avoir de la diversité génétique et d'espèces pour l'alimentation, pour la qualité du produit, et puis pour la pérennité même de projet. En fait, on n'est pas, si on est autonome, on n'est pas sujet à un fournisseur qui a un peu de monopole. C'est un peu le cas actuellement.
Ok. Alors on pourra parler de cet intérêt de la diversité aussi dans ce qui concerne la production. J'imagine qu'il doit y avoir des propriétés qui peuvent un peu varier d'un champignon à l'autre. Et à quoi ça ressemble, à quoi ressemblent vos locaux ? Est-ce que vous êtes avec des serres ? Est-ce que c'est de la lumière artificielle dans une chambre, dans une salle sombre ?
Ça pourrait. Alors nous, on a l'avantage d'avoir un hangar qui laisse passer la lumière, donc on n'a pas besoin de cette lumière artificielle. Parce que contrairement à ce qu'on pense, la plupart des champignons qui dégradent de la matière organique, comme ce qu'on fait pousser, ont besoin quand même d'un peu de lumière, comme ce qui se passe en forêt, une lumière de sous-bois en fait. Donc c'est pas de la lumière directe, mais ils ont besoin quand même d'un peu de lumière. Le champignon de Paris, bien sûr, peut pousser en cave, mais c'est pas ce qu'on fait. Donc nous, c'est un hangar avec des serres d'intérieur, c'est en ossature bois en fait, et dans lequel on va gérer les flux d'air, parce que le champignon, contrairement aux plantes, ne fait pas de photosynthèse, et du coup la pousse du mycélium va générer du CO2, donc il faut renouveler l'air régulièrement, et on va gérer l'humidité. Et c'est tout, en fait. Et les températures, on ne va pas les gérer parce que, en fait, sinon, ce serait des consommations énergétiques trop importantes. Ce qui fait que, comme par exemple, ce mois de janvier était un peu plus compliqué avec le froid, et que, comme c'est un hangar industriel, donc il est pas isolé, et on est un peu sujet au vent, au froid, à l'environnement, donc on s'adapte.
Par rapport à Marseille, qui a souvent un climat sec, est-ce qu'il y a quand même des champignons qui peuvent se développer dans un climat comme ça, ou si jamais vous apportiez pas une humidité supplémentaire, ça serait compliqué ?
Non, je pense qu'il faudrait, dans tous les cas, il faut une humidité, mais c'est valable à peu près partout, à part peut-être dans certains coins où on peut faire un peu de culture en extérieur. C'est en intérieur, c'est de la culture en intérieur, donc dans tous les cas, il faut avoir une gestion de l'humidité. Après, il faut savoir que l'humidité, elle est surtout présente dans le mélange qu'on fait. Ce sur quoi le champignon va pousser. C'est là où il y a énormément d'humidité. Donc en fait, il y a des fois, on n'a même pas besoin de rajouter de l'humidité. L'humidité présente dans le substrat est déjà suffisante.
Ok. Et alors, à qui ça s'adresse ? Où est-ce qu'on peut acheter vos champignons ?
Alors pour l'instant, on est présent en marché déjà. Donc on fait pas mal de marchés. On est présent au Cours Julien, on est présent à la Friche, à la Joliette. Donc c'est les marchés de producteurs à chaque fois. À la Gavotte et le nouveau marché de la Plaine, qui est vendredi après-midi, fin d'après-midi. Marché de producteurs aussi. Donc c'est à chaque fois, c'est des marchés où il n'y a pas de revendeurs, c'est que des gens qui produisent leurs produits. Donc ça, c'est pour la vente en direct. Après, on a des professionnels qui nous achètent, des restaurateurs, des épiceries paysannes. Et on fait aussi partie du réseau d'AMAP des paniers marseillais.
Ok, ça, on pourra redonner les petites informations en toute fin d'émission. Et tu disais tout à l'heure que c'était le nerf de la guerre que de faire cette production alimentaire pour pouvoir faire un peu tourner la machine, mais que vous allez ouvrir assez prochainement un laboratoire. Est-ce que tu veux développer un peu davantage, notamment pour pouvoir reprendre ces recherches qui vous ont un peu regroupé au tout départ sur la production de matériaux ?
Ouais, exactement. Donc en fait, ce laboratoire, il ne faut pas s'imaginer un laboratoire, d'une unité de recherche. C'est un milieu en fait, où on va pouvoir être dans des conditions le plus stériles possible. C'est nécessaire parce que en fait, la production de champignons et de mycélium, elle nécessite ces conditions de stérilité. Ce qui veut dire qu'en fait, pour produire ce mélange de paille, de sciure, de drèche, eh ben, il va falloir le stériliser, c'est-à-dire le passer à la vapeur. Et ensuite, au moment où on va y ajouter notre champignon, ben, il faut qu'il y ait le moins de risque de contamination possible. Les contaminations, c'est comme la moisissure que vous avez sur votre pomme quand vous la laissez traîner sur la table. Cette moisissure verte, là, qui est un autre champignon, qui s'appelle le trichoderme. Ça, c'est la hantise des champignonistes, quoi. Donc, nous, on va contrôler tout ça grâce à ce laboratoire, un pasteurisateur aussi, enfin, un stérilisateur, pour des grandes quantités, en fait, de matière. C'était ça qui nous manquait. Et donc, ce laboratoire qui voit le jour grâce à la patience et la motivation de Raphaël ces dernières semaines, il va nous permettre de retravailler sur ces nouvelles espèces pour la production de champignons comestibles et de commencer à travailler sur les matériaux. Alors, ça veut dire relancer des tests sur des matériaux qui pourraient remplacer en fait des choses qui sont actuellement en polystyrène. Dans un premier temps, ça va être de refaire des objets plutôt dans le design, dans le mobilier. Après, on a des projets un peu plus long terme sur est-ce qu'on ne pourrait pas faire une planche de surf avec ça. Il y a des propriétés d'isolation naturelle du mycélium qui font qu'on pourrait travailler sur des matériaux dans le bâtiment, panneaux d'isolation par exemple. Ça nécessite des contraintes. Enfin, après, là, il y a de la recherche derrière et il y a des obligations de normes, il y a des obligations d'avoir tout le temps les mêmes rendus. Là, l'idée, c'est de pouvoir sortir des prototypes pendant cette année et du coup d'y voir un peu plus clair sur les applications sur lesquelles on se lance vraiment et où est-ce qu'on pousse, quelle solution on pousse en fait un peu plus.
Sachant que tout à l'heure, tu disais que l'origine de ton parcours, c'était d'être ingénieur sur des questions environnementales, et on est aussi dans cette émission qui touche à ces questions écologiques. En quoi, pour répondre de façon un peu plus générale, tu considères que le champignon peut venir apporter un apport bénéfique dans la façon qu'on a de produire nos meubles et même d'isoler nos immeubles?
En fait, tout simplement, déjà, le champignon, on ne le connaît pas assez. De manière générale. Donc il y a vraiment un intérêt de travailler sur cet organisme. De deux, ses propriétés en fait, physiques, naturelles de liant. Faut vraiment s'imaginer que le mycélium, c'est un réseau qui peut coloniser cette paille, cette sciure, et former des blocs qui peuvent être très durs, très résistants, mais à la fois assez légers. Qui ont des propriétés thermiques et c'est aussi hydrophobe, c'est ignifuge. Donc c'est dans cette idée-là, et en fait ce seraient des matériaux qui sont entièrement organiques. On emploie souvent le terme biosourcé, là c'est 100% biosourcé, c'est-à-dire c'est de la matière locale, en plus dans l'idée collectée le plus proche possible de nos lieux de production, qui en plus, dans certains cas, comme la paille de riz, la plupart des agriculteurs en Camargue, ils la brûlent, cette paille. Donc ça veut dire que ça finit dans l'atmosphère. Là, on la revalorise. On en fait, dans l'idée, des matériaux qui remplaceraient des choses qui sont, de la laine de verre ou du panneau isolant. Là, tu parlais d'isolation. Panneau isolant en polystyrène, par exemple. Ça, une fois qu'on détruit un bâtiment, c'est un déchet. Malheureusement, il y a peu d'usines de revalorisation de polystyrène. Ça existe, mais c'est minime. Et à la fin, détruis ton bâtiment, tu as un bloc de paille et de sciure et de mycélium, tu le casses en morceaux et retourne à la terre sans l'impacter.
Ça s'inscrit dans des travaux, par exemple, d'économie symbiotique d'Isabelle Delannoy, je ne sais pas si tu la connais, qui propose des modèles un peu de permaculture industrielle, où plutôt que d'avoir des cycles linéaires avec production, consommation, déchets, tu vas avoir des intrants, des sortants qui forment des boucles positives.
Oui, exactement. Nous, on a tendance à vraiment définir le projet comme s'inscrivant dans l'économie circulaire, quoi, tout simplement. Même pour ce qui est de la production de champignons comestibles, en fait, on prend cette matière, on fait pousser des champignons dessus, et puis à la fin, il nous reste un truc... C'est une sorte de gros bloc de mycélium et de paille et de sciure qui a été colonisé par ce mycélium. Et ça, bah, nous, actuellement, on a des maraîchers, des collègues qui viennent récupérer ça et qui l'épandent dans leur champ. Ça permet d'avoir des apports de champignons dans les sols. Mmh. C'est structurant, c'est un amendement qui est intéressant. Mais pareil, sur ces questions-là, il y a encore de la recherche à faire. C'est des choses que Mycotopia et la partie innovation mycologique aussi souhaiteraient porter. C'est-à-dire développer ces matériaux, c'est un axe, mais on a aussi des choses qui sont peut-être... Et ça rejoint ta question justement sur comment le champignon et le mycélium pourraient être une solution pour demain. Il y a aussi un axe sur l'agriculture et comment on pourrait intégrer un peu plus le champignon dans l'agriculture. Donc aussi bien en y mettant des substrats de culture, mais ça peut être aussi de travailler sur des associations, faire pousser de l'ail avec du strophère. C'est des choses qu'on va relancer bientôt. Mm-hmm. Strophère, c'est un champignon comestible plutôt bon et qui pousse très bien dans les jardins. Et il y a des Québécois qui bossent sur ça et qui ont amélioré leur rendement d'ail et le rendement des champignons sur une même planche, ce qui fait qu'en fait, sur une surface... on peut produire deux produits et en plus de ça, améliorer les rendements. Donc, il y a des solutions comme ça, en plus que nous, on souhaiterait porter plus tard. On aimerait qu'en tout cas l'association puisse aller aussi sur ces questions-là.
Sachant que si je comprends bien, finalement, on peut valoriser la partie mycélium qui est en dessous, qui elle n'est pas celle qui se mange. Et là, plus sur la question de biomatériaux ou, comme tu disais, ensuite de pouvoir aller les étendre dans des champs. Pour la partie qui pousse, qui est la partie qui est celle qui se reproduit, si j'ai toujours bien compris ce que tu m'expliquais, là, on va plus sur de la production alimentaire. Et je te propose qu'on puisse continuer ces questions juste après la respiration musicale qui nous permet à toutes et tous de retrouver... nos esprits après des explications denses et passionnantes. Je te laisse nous dire ce que nous allons écouter, puis on se retrouvera juste après.
C'est un petit morceau de Goat, un groupe que j'écoute régulièrement en allant à la champignonnière actuellement et qui motive bien le matin, surtout qu'on attaque par les récoltes et en équipe tous ensemble. Et donc voilà, c'est simplement un petit son actuel de ma playlist qui me motive bien. Voilà.
Merci à toi, Guilin. À tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous, nous sommes toujours en direct de 19h à 20h sur Radio Galère dans l'émission Écoforum qui donne la parole aux actrices et aux acteurs des transitions environnementales et solidaires de la ville de Marseille et sa région. Nous sommes toujours avec Guilin de Mycotopia pour cette deuxième partie d'émission où tu viens de nous faire écouter un son avec une cadence folle où on sent toute l'énergie que tu vas mettre dans la journée après, puisque tu disais que tu écoutais ça pour aller travailler. Et on se quittait juste avant l'émission où nous discutions de la façon d'agencer de façon la plus intelligente que possible, finalement, toutes les productions qui peuvent exister, tant dans le substrat que vous allez faire venir en termes de biomasse, et puis ensuite le mycélium, les productions alimentaires. Et pour cette deuxième partie d'émission, ce que je te propose, si tu l'acceptes, c'est que on puisse un peu aller chercher la question des imaginaires, puisque dans Mycotopia, il y a quand même la partie, on entend Utopia, peut-être qui se cache quelque part, ou en tout cas Topia, ça m'intrigue.
Est-ce oui, que mais c'est très juste, c'est le but d'intriguer. Non, mais pourquoi ce nom? Bon, myco déjà, tout simplement pour la mycologie, c'est la science des champignons. Et bien sûr, l'idée derrière, il y a l'idée d'utopie. Avant le break musical, je parlais justement de ce qu'on pouvait faire avec le mycélium et avec les champignons. Et l'idée du projet, c'est peut-être de pas se bloquer en fait avec toutes ces possibilités, de pouvoir rêver, de pouvoir aller plus loin que simplement produire des champignons. Bon, déjà développer des matériaux à base de champignons, c'est déjà un beau rêve. Qui commence vraiment à aboutir, parce qu'il y a des sociétés dans le monde qui commencent à vraiment créer ces choses-là, et il y a beaucoup de gens qui commencent à travailler là-dessus, enfin beaucoup dans le petit monde de la mycologie, mais voilà, c'est l'idée de pouvoir peut-être aller vraiment dans tous les aspects du champignon. Et cette idée de mycélium, voilà, le mycélium il connecte, il dégrade, dans le bon sens du terme, de la matière organique. Et nous, on n'a pas envie d'être bloqués. On veut se laisser possibilité d'utiliser cet organisme des meilleures façons possibles et d'aller le plus loin possible avec. Souvent, on a tendance à dire que nous, on travaille avec le champignon plutôt que sur le champignon. Voilà.
Alors, je te propose qu'on essaie de se plonger dans plusieurs types d'imaginaires successifs. Comme ça nous permet aussi de remuer à nos méninges et à celles et ceux qui nous écoutent aussi. Sur la première question, ça va être sur l'imaginaire du mycélium. Pourquoi il y a le réseau mycélium qui existe, par exemple, en termes d'organisation écologique, qui est un grand site internet qui regroupe énormément d'informations diverses et variées. Pourquoi est-ce que c'est finalement si inspirant? Et quand on parle de biomimétisme, et donc dans nos activités humaines, de chercher à reproduire ce que la dite nature, et j'emploie des guillemets dans ma façon de parler, puisqu'on fait partie de la nature nous-mêmes et il n'y a pas vraiment de distinction si fondamentale, c'est intéressant que de chercher à retenir les enseignements que le mycélium nous apprend.
Je pense que l'idée déjà de le mycélium en réseau, alors il vient essentiellement de champignons dont j'ai pas encore trop parlé, qui sont les champignons mycorhiziens ou symbiotiques. Nous, ce qu'on cultive, ils dégradent la matière organique, mais il y en a qui vont aller plus loin, qui vont avoir besoin de rentrer en symbiose avec une espèce végétale. Et depuis pas mal de temps maintenant, enfin quelques années plutôt, on entend parler de l'internet de la forêt, par exemple, que seraient ces réseaux mycorhiziens. Donc en fait, la mycorhize, c'est la connexion, pour faire simple, entre une racine et du mycélium. Et ce réseau, pourquoi on parle d'internet de la forêt, c'est parce qu'en fait, il y a des échanges qui se font entre les espèces fongiques et les espèces végétales, des échanges de nutriments, d'informations, de sucres, des produits de la photosynthèse qui vont être bénéfiques pour les champignons, et les produits de la dégradation de ces champignons qui vont être bénéfiques aux végétaux, et je pense que c'est pour ça que c'est très inspirant.
Et alors, est-ce que tu penses que c'est reproductible à l'échelle humaine ? Je te donne deux exemples. Tout à l'heure, on parlait d'Isabelle Delannoy qui cherche dans ses travaux à pouvoir avoir beaucoup plus de connexions dans nos interactions humaines et notamment dans la façon d'organiser des institutions, plutôt que d'avoir un rapport pyramidal, de chercher à créer finalement des connexions entre les différentes personnes qui travaillent dans l'organisation. Et ça peut aussi être ce que propose Frédéric Laloux dans un bouquin qui s'appelle « Reinventing Organizations », mais c'est écrit en français, qui parle des dites organisations opales, où plutôt que d'avoir des approches pyramidales à la recherche d'une performance ciblée, en fait, c'est cette espèce d'autogouvernance très décentralisée, où finalement, il n'y aura pas vraiment de directeur, plus une âme qui sera donnée dans le projet avec une direction donnée, et ensuite... un peu comme dans un réseau de mycélium, d'avoir énormément d'interactions réciproques. Est-ce que tu penses que c'est une utopie qui va venir en fait créer la société de demain, ou est-ce que on pousse un peu trop loin la comparaison ?
C'est une bonne question. Non, moi j'espère en tout cas personnellement que la société de demain pourrait aller en tout cas sur des modèles plus coopératifs de manière générale, et donc s'inspirer, oui, de cette idée de réseau, de partage, d'échange. Ça me paraît être une vraie solution pour la société de demain. Après, est-ce que c'est toujours faisable ? Est-ce que c'est faisable pour tous les projets ? Ça, je ne sais pas. J'ai des doutes. J'aimerais que ce le soit. Mais pour l'instant, en tout cas, notre société en est loin. Mmh. Mais en tout cas, nous, à Mycotopia, on aime à penser ça. L'idée, c'est de coopérer, d'échanger. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu cette volonté de transmettre ce qu'on apprend et ce qu'on sait du champignon. Pour moi, c'est... ce lien entre comment fonctionne le mycélium et en fait comment fonctionne l'écosystème forêt, en fait, tout simplement, il faut s'en inspirer, ça c'est certain. Tu parlais de biomimétisme tout à l'heure. Il faut absolument s'en inspirer pour trouver des solutions techniques, mais aussi sociales à notre société. Donc, tes exemples sont pour moi bons, il faut tendre à aller à ça. Est-ce que c'est tout le temps faisable ? Bah, je sais pas. Il faut essayer en tout cas.
Alors, on va pouvoir se projeter dans un autre imaginaire, si tu le veux bien. Prenons la ville de Marseille. Donc, le territoire de Marseille, on peut ouvrir un peu à la métropole pour aller chercher dans les dites campagnes ce dont on aurait besoin. Et projetons-nous en 2040, où le champignon aurait pris toute la place que tu souhaites qu'il prenne. Je te laisse développer là où tu penses qu'il pourrait avoir une vertu de transformation.
Wow.
Ah ouais, on va s'amuser un petit peu là, il reste 10 minutes.
Bah moi, j'aimerais en tout cas, déjà, juste pour relier au projet, tout simplement que les habitants, les Marseillais, consomment... plein de variétés de champignons et une diversité de champignons dans leur assiette, et que tous les Marseillais puissent consommer ce type de produits, que ce soit pas réservé non plus qu'à un certain portefeuille, parce que pour l'instant c'est le cas, et nous on fonctionne aussi comme ça, c'est la réalité du marché, c'est une réalité tout simplement. Mais du coup, ça ce serait hyper chouette que le champignon y ait suffisamment de production marseillaise, locale, où il y ait une diversité de produits et d'espèces. Puis après, pour aller un peu plus loin et un peu plus dans le rêve, imaginons en 2040 qu'on ait un peu débétonné cette ville. Et puis qu'on ait pensé à la mise en place de systèmes forestiers qui pourraient survivre à un climat de 2040 à Marseille. et que en mettant en place ces systèmes forestiers, on est pensé aux champignons parce qu'en fait, ils peuvent pas fonctionner. Enfin, ce système ne pourrait pas fonctionner sans travailler avec le champignon.
Est-ce que tu veux bien expliquer ce point-là?
En fait, la création d'humus, donc la création de sol, elle nécessite d'avoir une population fongique importante qui va justement dégrader cette matière organique, favoriser la mise en place de bactéries ou d'autres organismes dans le sol et du coup favoriser la vie, favoriser la mise en place de systèmes végétaux robustes qui pourraient éventuellement résister à une augmentation des températures et surtout travailler avec des espèces endémiques et des champignons endémiques de Provence pour que des espèces endémiques végétales puissent survivre et s'installer dans ces nouvelles forêts qu'on aurait créées dans Marseille.
Alors, si je suis un peu tout ce que tu m'expliques depuis le début, j'essaie de récapituler moi-même ce que j'apprends. Pour l'avant-production, on pourrait aller chercher donc de la biomasse qui vient de production agricole qui n'est pas forcément très valorisée, comme de la drèche de bière ou des plants de vigne. Il y en avait un dernier que tu disais tout à l'heure.
La paille de riz de Camargue, par exemple. Mais ça peut être la sciure, ça peut être plein
de choses. Donc ça, c'est sur de la production locale, on va pouvoir importer ça pour le valoriser et donc ensuite produire ton champignon. À partir du moment où tu auras récupéré, la possibilité, mais ça tu vas pouvoir le faire très rapidement, de produire toi-même tes propres plants sans avoir à les acheter en Auvergne, tu vas pouvoir avoir plusieurs types. Comme ça aura fonctionné, tu n'auras plus un hangar, mais tu en auras plusieurs qui seront dans plusieurs, on va dire.
Alors j'en aurai pas, c'est pas moi qui les aurai.
Ça sera d'autres, bien.
On sera plusieurs à faire ça et ce sera mieux.
Socialement, on aura créé un réseau mycéliotique, au niveau de la société. Donc on aura plein de petites zones de production locales qui produiront une partie, donc la partie des spores qui se mangent, qui est celle qui est reproductible pour de l'alimentation. Et le mycélium, est-ce que le mycélium à l'infini, il produit, ou à un moment il dit stop
Là, on est dans l'imaginaire, je peux te dire oui. Non, en fait, par exemple, ça me permet de rebondir sur une anecdote. L'organisme le plus grand sur Terre, c'est un champignon, en Oregon.
Ok.
Il y a un mycélium, où c'est tout le temps le même mycélium qui fait 9 hectares.
Waouh. Okay.
Donc, il peut pousser quand même.
On peut créer un mycélium dans nos forêts. Idée pour le parc de Bougainville qui est pas très loin de chez vous. Peut-être qu'on peut mettre du mycélium un peu partout.
Ouais, ça serait vraiment bien. C'est un travail qu'il faut qu'on fasse d'ailleurs. Il faudrait peut-être aller toquer à la porte de ceux qui sont sur ce projet-là et d'aller travailler sur ça. Alors, après, là, pour vraiment rentrer dans le détail et pas pour être plutôt juste biologiquement parlant. Pour la mise en place de ces forêts et tout ça, il faudrait travailler sur des champignons mycorhiziens, c'est-à-dire ceux qui sont en symbiose. Là. C'est ça l'idéal. Donc, c'est pas, mais ça se fait. Hein. Il y a des boîtes là, qui se montent où ils travaillent justement sur analyser le sol d'une exploitation agricole, voir ce qu'il y a comme champignons, puis les cultiver et les cultiver, les réinjecter dans le sol pour booster la colonisation de ce sol par ces champignons déjà présents. Donc il y a des gens qui travaillent sur ça. Et là, ce n'est pas sur la production de champignons alimentaires comestibles. Okay. C'est pour faire en sorte que dans le sol, il y en ait de plus en plus. Et en plus, les bons, ceux qui sont déjà présents.
Et est-ce que ça maintient l'eau dans le sol? Parce que ça, c'est une grande question sur le ruissellement, le fait que tout à l'heure, tu parlais de débétonner la ville. Il y a tout un enjeu de la gestion de l'eau, surtout à Marseille où il ne pleut pas très souvent.
Mais à partir du moment où tu as un sol vivant en forme, t'as de la rétention d'eau en fait qui se fait actuellement. Enfin, sans parler de bétonisation, même dans nos sols agricoles, on les a tellement labourés, on a tellement déstructuré en fait la mise en place de ces sols qu'on a plus cette rétention d'eau. Mais le mycélium a un pouvoir de rétention d'eau, donc ça c'est assez intéressant. Même en ajoutant nos substrats par exemple de culture, quand on les ajoute au sol. Ça, c'est une des choses que l'on sait. Ça permet de garder l'eau et d'avoir ce pouvoir de rétention.
Mmh. Donc on voit les apports en matière de revalorisation de biodéchets, de rétention d'eau, de production alimentaire. Tout à l'heure, on parlait d'isolation des bâtiments.
Ouais.
Produire. Alors, pour remplacer le plastique, est-ce que tu crois qu'un jour, on aura des sachets dans les magasins qui seront faits à base de mycélium ou de dérivés de champignons plutôt que de dérivés pétrochimiques de plastique?
Je pense que pareil, toujours, on est dans la partie plus imaginaire. On pourrait y aller. Nous, on s'est amusé à faire des tests, et notamment avec des amis qui travaillent un peu plus dans la mycologie. Il y a des gens qui bossent sur des cuirs, par exemple. Il y a une société américaine qui a fait des cuirs de mycélium. Mm-hmm. Et en fait, on pourrait arriver à avoir des sortes de biofilms fongiques transparents. On a fait des tests qui ont abouti à ça. Donc, en poussant cette recherche-là, c'est pas impensable d'avoir des sacs en biofilm de champignons.
Et alors, dernière question, puisqu'on arrive... Deux questions. Pour rester sur les imaginaires, qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse faire de cet imaginaire la réalité de demain?
Y a plein de choses. Je pense que à l'échelle de la recherche, il y a une nécessité de considérer le champignon à sa juste valeur. Et de le mettre au même niveau que les études qu'on a pu faire en botanique, sur le monde végétal ou même le monde animal. C'est quand même le troisième règne du vivant et on en connaît quand même nettement moins que les deux autres. Donc ça, c'est une nécessité. C'est pas que avec des projets comme Mycotopia en mode associatif qu'on va trouver des solutions pour demain. Après, c'est de communiquer sur les initiatives qui sont faites, en tout cas autour du monde fongique. Pour moi, là je parle vraiment en mon nom, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de transmettre et de partager. Là on est dans l'innovation, et l'innovation des fois elle est un peu bloquée par... tu mets tellement de travail que... Du coup il y a aussi cette question-là de savoir comment tu protèges un peu ton travail d'innovation, mais en même temps, comment tu fais en sorte qu'il serve vraiment à la société. Ça, c'est des questions auxquelles, en tout cas, au sein de l'asso, on n'a pas encore répondu.
Tu parles de brevets?
Je parle de brevets, ouais, entre autres. De licences, d'open source, toutes ces questions-là. Où c'est certain que quand tu commences à avoir une solution, il faut viabiliser... ton projet économiquement, mais en même temps, tu as une volonté d'avoir le plus d'impact possible. Donc, comment tu fais? Il y a des gens qui bossent sur ces questions-là, qui sont plus avancés que moi, sûrement. Voilà.
Je pourrais te poser encore plein de questions, mais on arrive doucement à l'heure. Alors, pour t'aider, toi, et ce projet de Mycotopia, puisque là, c'est la toute dernière question, comment est-ce qu'on peut s'approvisionner? Tu parlais tout à l'heure des différents... lieu de vente à Marseille, et est-ce que vous avez des besoins, ou est-ce qu'il y a... Tout à l'heure aussi, tu disais que vous faisiez de la sensibilisation, notamment pour les enfants, il me semble.
Ouais, alors pas que.
Voilà, les informations pratiques, je te laisse.
Ouais, alors en pratique, on est... je fais vite, apparemment, il faut que je fasse vite. Et en pratique, on est présent donc sur le marché du Cours Julien, de la Plaine, de la Friche et de la Joliette, marché de producteurs, et ainsi que la Gavotte. On est aussi, comme je disais tout à l'heure, présent sur le réseau des AMAP, des paniers marseillais. Après, vous pourrez trouver nos champignons également en épicerie paysanne dans le centre-ville. Et sinon, pour le volet un peu plus sensibilisation à l'environnement, on crée des programmes qui sont adaptés aux écoles, aux collèges, aux lycées. Mais on aimerait aussi s'ouvrir au grand public, et donc... prochainement, si vous souhaitez apprendre plus sur le champignon et apprendre à cultiver chez vous des champignons, parce que c'est faisable, on mettra des informations sur notre site internet pour ouvrir des ateliers grand public.
Site internet, voilà. mycotopia.bio, je l'ai sous les yeux.
C'est voilà. Ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais vous pouvez trouver pas mal d'informations sur ce site.
Super. Eh ben, merci beaucoup à toi, Guylain Delcher. Cette fois, je n'ai pas, je l'espère, écorché ton nom.
Non, parfait.
Super. De Mycotopia, on rappelle le nom aussi de la structure que nous accueillons ce soir. Vous pourrez donc retrouver cette émission en replay demain de 9h à 10h et en podcast qui sera très prochainement sur le site internet de Radio Galère. Merci beaucoup à toi, Guylain.
Merci à toi.
Et on rend l'antenne. Très bonne soirée.
Bonne soirée.